avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment enrayer la folie des paris sportifs? Pour l'Euro de foot 2020, les Français ont parié 435 millions d'euros. Le marché des paris sportifs est libéralisé depuis une dizaine d'années, mais très réglementé dans un pays comme la France. Reste à savoir si ces règles sont respectées par les sociétés de paris sportifs. Dans leur publicité, en tout cas, elles ciblent des jeunes de milieux modestes qui deviennent vite accros et perdent beaucoup d'argent par rapport en tout cas à leur faible niveau de vie. Comment limiter ces paris? Est-ce qu'il faut plus de réglementation, quitte à limiter la liberté des jeunes de parier dans leur sport favori, en général le foot? On verra aussi la détresse des jeunes au Kenya. Et puis on attend vos points de vue, vos témoignages de parieurs sportifs, où que vous soyez dans le monde. Comment faites-vous pour contrôler vos pertes? Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Latifa Oulkouir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directrice du Bondi Blog, qui est un média en ligne qui relate la vie des quartiers et des jeunes de la diversité. C'est un média qui a beaucoup travaillé sur ce sujet des paris en ligne. Également avec nous Isabelle Falk-Pierrotin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, avant ça s'appelait l'ARJEL, une autorité qui est chargée de la régulation des paris sportifs et des jeux de hasard en France. En Afrique anglophone, les paris sportifs vont bon train, nous expliquera Charlotte Simonard, la correspondante au Kenya.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Vous aimez le sport. Et vous aimez glander sur votre canapé.
Et ben je parie qui vient pour parier.
Tous ensemble, sauf à l'arrivée.
Bascule dans le game.
Grosse cote, gros gain, gros respect.
Que les meilleurs gagnent.
Voilà, c'est pas parce qu'on parie beaucoup qu'on fait beaucoup de sport. En tout cas, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Abdoulaye est en ligne avec nous. Bonjour Abdoulaye.
Et bonjour Madame Bassi, bonjour les voisins et voisines.
Soyez le bienvenu Abdoulaye, vous êtes à Conakry, en Guinée-Conakry. Vous-même, vous êtes un joueur, un parieur?
Oui, de temps en temps, oui.
Ouais. Alors vous avez dit que partout en Guinée-Conakry, désormais, il y a des cabines de jeu, même dans les zones rurales les plus reculées?
Oui, effectivement. Partout en Guinée, dans les confins, dans les villages, dans les hameaux, partout il y en a.
Ouais. Et qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre point de vue de parieur?
Eh bien, bon, grâce à la pauvreté accrue, au chômage, ça se constate même à travers le Maroc où les jeunes gens vont pour se noyer en essayant de traverser l'océan pour aller en Espagne, grâce à la pauvreté qui bat son record en Guinée, le chômage. Donc les gens tentent leur chance chaque jour. Les vieux, les jeunes, les adultes en essayant de jouer au Guinée Games, un jeu qui bat le record en Guinée. Est-ce que vous voyez? Donc là, du coup, tu peux jouer une fois, deux fois, trois fois, et comme ça, tu gagnes. Et tout récemment, j'ai un ami, un jeune frère, peut dire comme ça, qui a gagné plus de 20 000 euros. Oui. Le 14 février 2021, il a gagner 20 000 euros.
Ouais. Et vous-même, Abdoulaye, vous estimez qu'on peut gagner davantage d'argent qu'en perdre?
Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la chance, comme tout jeu, donc de loterie. Et il y a des jeux sportifs, paris sportifs, les matchs qui se passent à Paris, et en Espagne, et en Italie, en Allemagne, comme hier, par exemple, Liverpool, Manchester City. Donc les gens jouent Barça et ainsi de suite. Donc ça donne. Et il y a aussi des boules. Et les gens croient et ils gagnent.
Oui. Merci pour votre témoignage, Abdoulaye. Alors, les paris sportifs ne sont pas réellement des jeux de hasard, hein, bien évidemment. Certains estiment qu'ils ont une expertise et que c'est pour ça qu'ils peuvent gagner. En tout cas, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Je vais vous lire aussi des messages qui ont été très nombreux à être postés sur nos réseaux sociaux. Il y a Bourgeois qui est dans l'ouest du Tchad qui nous dit: moi je pariais beaucoup lors des matchs de foot, mais un jour quelqu'un m'a dit c'est de la magie, ça te prend ton argent pour rien. J'ai arrêté parce que souvent le résultat du match me punissait, je perdais de l'argent. Bourgeois, il ne jouait jamais plus de 500 francs CFA, ce qui est moins d'un euro. Évidemment, on joue en fonction aussi du niveau de vie dans chaque pays. Ali est à Dakar, il nous dit: moi je parie de temps en temps, mais la plupart des fois je perds. Je connais des gens qui prennent des risques pour leur famille en pariant sur des matchs de lutte sénégalaise, et ils peuvent gagner beaucoup d'argent ou tout perdre. Brice est à Yaoundé au Cameroun. Moi je ne parie jamais, j'ai beaucoup trop peur de faire une crise cardiaque. Par contre mes amis, oui, ils parient. La défaite du Barça en Champions League a amené un de mes amis à ne plus parier parce qu'il comptait sur la victoire du Barça pour éponger ses dettes, mais c'est raté. Et puis parole d'un parieur aussi, Pascal est à Bukavu en RDC. Quand on parie de l'argent, il ne reste qu'un seul match. Bah, évidemment on a le cœur qui bat, et si on perd, eh ben, on est très très mal le lendemain. Abbas, qui a 25 ans, qui est à N'Djamena au Tchad, nous dit qu'il connaît des amis qui ont abandonné leurs études au profit des paris de foot, et ils sont devant les kiosques tous les matins. C'est devenu comme un métier pour eux. Ou encore Mohamed à Paris qui dit « Hélas, ce sont les gens les plus modestes et les moins instruits qui parient. J'espère que vous dénoncerez cette industrie qui est un fléau destructeur. » Voilà, alors on va vous donner bien sûr la parole, et puis vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Isabelle Falpierrotin, vous qui représentez donc l'autorité nationale des jeux en France, est-ce que déjà c'est vrai que ça touche les jeunes les plus modestes? Les jeunes, ça c'est sûr. Mais...
Alors ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. En France, on estime qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui jouent au pari sportif. Et je voulais réagir au témoignage de Abdoulaye. Il est évident que les opérateurs de paris jouent sur cette illusion qu'avec le pari sportif, on peut gagner de l'argent. On peut en gagner de temps en temps, mais on ne peut pas gagner sa vie. Ça, c'est sûr. Et nous avons, en 2017, mené une étude qui montrait que moins de 0,002% des parieurs gagnaient sur l'année plus de 10 000 euros. Pour l'ensemble, je dirais, des parieurs, c'est une possibilité de gagner éventuellement des petites sommes, mais sûrement pas de vivre à partir du pari sportif. Et toute la réglementation du pari en France, c'est pour essayer de cantonner le pari sportif à une activité récréative. Et c'est ça, je dirais, la difficulté de l'exercice.
Ça veut dire que vous nous confirmez que l'immense majorité des parieurs perd plus qu'ils ne gagnent, perd plus d'argent qu'ils n'en gagnent.
Alors, le taux de retour aux joueurs du pari sportif, il est de 85%. C'est-à-dire, par rapport aux mises, et dans les derniers trimestres, on a eu des records de mises, c'est-à-dire plus de 2 milliards d'euros de mises sur un trimestre. Le taux de retour aux joueurs, les joueurs récupèrent 85% de ces mises.
D'accord.
Donc il y a quand même un retour sur le joueur. Mais globalement, effectivement, si c'est si attractif pour les opérateurs, c'est parce que, effectivement, principalement, les gens perdent.
Vous pouvez juste nous réexpliquer en deux mots comment ça marche. Quelqu'un qui n'a jamais parié, comment ça fonctionne exactement? On va sur un site.
Alors, quelqu'un qui n'a jamais parié, pour parier en ligne... Parce qu'on peut aussi parier en dur, ce qu'on appelle dans un réseau physique de la Française des Jeux. Mais pour le pari en ligne, il faut ouvrir un compte, s'identifier, donner une identité, un numéro de carte bancaire, et on peut jouer soit en ligne sur un site internet, soit à partir d'une application sur le téléphone portable. Et en fait, c'est le développement des applications qui ont considérablement accéléré le développement du marché depuis 2017.
On peut parier 24 heures sur 24.
On peut parier 24 heures sur 24. On parie essentiellement un pari à cote. C'est donc un pari en fait très simple parce qu'on sait dès le départ ce que le rendement du pari peut apporter. C'est-à-dire si je parie 10 et que la cote est de 2, je peux gagner 20. Voyez ? Donc c'est un pari qui est beaucoup plus simple que le pari hippique. Et on peut parier sur une même compétition, sur le score de la compétition, sur le nombre de matchs, sur le premier but marqué. Chaque compétition donne lieu à beaucoup de paris.
La question, c'est que quand on gagne, c'est crédité très rapidement sur votre compte, et que donc on est très incité à rejouer, à remettre la mise en jeu.
Bien sûr, et je dirais que une partie de l'astuce ou du métier, j'imagine, des opérateurs, c'est de faire en sorte que l'ergonomie du site, de l'application, soit favorable à vous inciter à parier. En fait, on est dans l'économie numérique, c'est-à-dire l'économie de l'attention, et donc on veut faire en sorte que le pari soit attractif. Donc nous, régulateurs, on est bien sûr conscients de ça, et ce que nous veillons à faire, c'est que les opérateurs respectent par ailleurs les obligations d'accompagnement, de pédagogie, de vigilance qu'ils ont par ailleurs par rapport aux joueurs.
Alors on va en parler de ces obligations. Latifa Alkouir, dites-nous déjà pourquoi le Bondy Blog, ce média en ligne, s'est intéressé à ce sujet.
Deux aspects. D'une part, parce que c'était une réalité auquel on assistait autour de nous de manière assez proche, donc de gens qui étaient parieurs, excessifs ou non, mais en tout cas c'était quelque chose qui devenait de plus en plus systématique. On sait l'importance et la place qu'a le football, évidemment en France et dans le quartier populaire particulièrement. Donc c'était quelque chose auquel on assistait. Et d'autre part, on a été interpellés sur le plan purement journalistique et de la communication aussi, de la manière dont les opérateurs ciblaient certaines catégories, allaient par rapport au langage utilisé, par rapport au profil d'acteurs, en tout cas qui étaient choisis.
En clair,
c'est que je n'ai jamais vu autant de noirs et d'arabes que dans des publicités pour les paris sportifs par rapport à, si on prend les pubs de manière générale, et en tout cas d'essayer de reproduire cette ambiance de quartier, de bande, de jeunes, etc. Donc véhiculer le message qu'aussi le pari quelque chose qui se pratique un peu en communauté, ensemble, voilà, alors que c'est quelque chose qui, quand il est addictif, isole, en fait. C'est un des premiers risques sanitaires du pari. Et notamment aussi dans le langage qui a été utilisé. On utilise beaucoup de mots d'argot, beaucoup de mots issus de l'arabe, sur les réseaux sociaux, etc.
Donc on cible des jeunes issus de la diversité, des jeunes des quartiers, qui ne sont pas les jeunes qui gagnent le mieux leur vie en France.
En tout cas, ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, c'est que Santé publique France a rendu une étude en 2019 dans laquelle c'était indiqué que la part des joueurs déjà à risque modéré ou excessif était surreprésentée dans la catégorie des paris sportifs. Et dans ces joueurs-là, on retrouvait davantage de jeunes issus de milieux sociaux modestes. Donc voilà, où qu'ils soient sur le territoire finalement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui
ça veut dire que les paris sportifs jouent un rôle d'appauvrissement pour ces jeunes, de mise en difficulté financière, qu'on peut se retrouver clairement, gravement dans la galère.
Oui, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est des témoignages que l'on a reçus. Et c'est vrai que dans le travail qu'on a fait, pour une des premières fois, on avait des témoignages de jeunes qui se retrouvaient en situation d'addiction à ces paris sportifs et qui ont accepté de témoigner, de raconter leur réalité parce qu'on ne pouvait pas continuer à voir ces publicités qui finalement, sans aucun doute, vendaient le pari sportif comme un outil de réussite sociale.
Essentiellement des hommes sont des parieurs, Isabelle Falk-Pierrotin.
Alors ce sont effectivement à plus de 80% des hommes, ce sont à plus de 75% effectivement des jeunes, c'est-à-dire des moins de 35 ans. Et je voudrais un peu nuancer ce qui vient d'être dit concernant la publicité. Effectivement, la publicité des opérateurs est une publicité qui est assez ciblée, rap, communauté, street, banlieue, mais la question est de savoir, est-ce qu'on cible les banlieues ou est-ce qu'on cible la culture jeune actuelle ? La culture jeune actuelle, c'est celle-ci. Alors effectivement, l'écho que ça va avoir, peut-être dans les banlieues, auprès de publics défavorisés, mais je dirais aussi des zones rurales, est probablement particulièrement à surveiller, parce que ce sont des populations qui sont peut-être en difficulté, et il faut les protéger. Mais je crois que lorsqu'on parle aux opérateurs, c'est surtout la population jeune, Internet, Millennials, Génération Z, qui est ciblée de façon générale. C'est pour ça que le problème, il est aussi important. Parce que ça concerne absolument tout le monde. Et nous, notre souci, quand on regarde, on a essayé de tester justement cette corrélation population défavorisée et taux de pénétration du pari sportif, puisque nous avons une base de données de l'ensemble des transactions de jeu. En fait, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a probablement une corrélation entre le taux de non-insertion des jeunes et l'intensité du pari sportif.
Oui, bah donc...
Mais oui, mais en fait, le différentiel avec, ceux qui ont un taux de non-insertion des jeunes plus élevé, il est assez faible.
Donc moins vous avez un boulot, plus vous êtes dans la galère, plus vous avez envie de jouer, parce que vous vous dites que vous allez pouvoir devenir quelqu'un en gagnant.
C'est certainement,
avec les paris
en tout cas, le raisonnement
de
certains.
Et c'est ce que les publicités vous disent.
Et plus vous êtes dans la galère financière, évidemment.
Oui, mais ça concerne.
Puisqu'on perd plus qu'on ne gagne.
Bien sûr, mais je dirais, ce n'est pas simplement les banlieues qui sont en cause, c'est aussi les zones rurales. C'est en fait toutes les régions où il y a effectivement ce taux de non-insertion des jeunes qui est important.
En quoi c'est davantage un problème, les paris sportifs, que les jeux de hasard, type loterie ?
Alors, les paris sportifs sont un jeu de hasard. Il y a une part d'expertise, mais ça reste un jeu de hasard. C'est d'ailleurs pour ça que nous venons d'engager une action très résolue à l'encontre des pronostiqueurs, qui sont des opérateurs sur Internet, qui vendent l'idée que, compte tenu de leur expertise, ils peuvent sécuriser le pari sportif. Non, c'est faux, c'est une tromperie. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de tipsters font l'objet de poursuites de la part des autorités administratives ou du procureur de la République.
Les sports les plus pariés, le foot, vous le disiez, très largement.
Très largement. Le tennis, ensuite, pour 20%. Et ensuite, le basket.
Ouais. L'addiction, vous en parliez, Latifa Oulkouir. Vous disiez, les publicités donnent l'illusion qu'on va être bien intégré dans son groupe quand on parie, parce qu'évidemment, on devient quelqu'un, on gagne de l'argent. Et vous dites, en réalité, c'est une activité qui isole complètement des autres. Pourquoi ?
Oui, parce que on le voit écrit en tout petit en bas que l'addiction peut provoquer donc l'endettement, aussi l'isolement. Et c'est, ça rejoint en fait, on a réussi à avoir des témoignages, mais ça a été extrêmement difficile parce que c'est extrêmement compliqué pour des gens qui sont en situation d'addiction, mais quelle qu'elle soit, finalement, qu'elle soit au jeu ou d'autres, d'admettre cela et de dire bon, bah voilà, je n'y arrive pas en fait. Je continue de parier, je n'arrive pas à arrêter et c'est compliqué d'avoir ça. Donc on a tendance à s'isoler. Et puis en plus, quand on a reçu des témoignages ou dans le cadre des paris sportifs, bah justement, il y en a qui s'en sortent un peu parce qu'ils ont l'impression de s'y connaître en foot. Et donc, on se dit, ah ouais, moi, j'y connais rien. Donc, c'est pour ça que je perds tout le temps. Quelqu'un qui nous dit, je ne comprends pas pourquoi je n'arrête pas de perdre. Et donc, on se renferme un peu sur soi. On n'a pas tellement envie d'en parler. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrête de parier. Mais c'est un des risques sanitaires classiques, que ce soit des paris sportifs ou des jeux de hasard, ouais, de manière générale.
En général, les gens ne disent pas qu'ils perdent.
C'est ça qui est compliqué aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour quelqu'un qui parie que pour les pronostiqueurs. Effectivement, ils vont mettre en avant le fait de dire « Ah là, à tel code, j'ai gagné tant ». Et après, pour le reste, ça va être évidemment moins visible, les pertes qui sont inhérentes au jeu, hein, quelles qu'ils soient. Mais c'est vrai que c'est ce qui pose problème au-delà de la promotion d'une idée de réussite sociale possible à travers les paris.
Alors maintenant qu'on parie beaucoup en digital, est-ce qu'un parieur, un joueur, a la possibilité de savoir exactement où il en est depuis le début qu'il joue ? Je ne sais pas, un parieur qui aurait commencé il y a 5 ans, s'il est toujours sur le même site, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir... Un solde de ce qu'il a misé, de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a perdu.
Alors normalement, les opérateurs sont tenus de fournir pour chaque compte joueur un état du compte et donc un historique du compte. Donc,
normalement, les autorités sont tenues de fournir. Vous nous avez bien dit
non,
ça.
Non, pas les autorités, les opérateurs.
Les opérateurs, pardon.
Donc les opérateurs ont l'obligation de fournir cette information aux joueurs. Le problème, c'est que cette information, elle n'est pas toujours aussi lisible et aussi accessible que ça pour le joueur, aussi compréhensible que ça pour le joueur, parce qu'il y a une opacité aussi de l'offre qui lui est faite, et notamment à travers toutes ces gratifications commerciales, ce qu'on appelle les free bets, les bonus d'acquisition, de fidélité, etc. Donc c'est un univers qui est quand même assez touffu pour le joueur. Et en plus... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur plusieurs opérateurs. Donc en réalité, s'ils veulent méconnaître ce que leur main droite fait et jouer avec la main gauche, en réalité, ils n'ont pas nécessairement une vision consolidée de toutes les dépenses de jeu qu'ils ont faites. Et un des objectifs que moi, je souhaiterais avoir à l'ANJ, c'est justement d'essayer de voir si on peut construire un petit plugin, une petite application permettant en fait aux joueurs de savoir facilement où il en est. Vous voyez, ça c'est quelque
aussi
chose
simple
si je prends...
qu'un relevé de compte en banque, ou à la
peut-être.
Fin, vous avez une colonne, combien vous avez dépensé et combien vous avez gagné. Hein, ça pourrait être aussi simple que ça, finalement, Latifa Oulkouir. Ce n'est pas le cas. Notamment aussi quand on est tout le temps incité à rejouer, notamment avec des paris gratuits, mais qui derrière aspirent aussi à miser à nouveau d'autres sommes.
Oui, ouais, c'est ça, complètement. Donc avec toutes les la panoplie de cadeaux que les opérateurs peuvent offrir aux parieurs. Hein. Effectivement, ça va des paris gratuits jusqu'à des invitations à l'assister à des matchs de foot en VIP, etc. Donc c'est, enfin, assez large. Donc c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui est de l'ordre de l'incitatif et qui est extrêmement beaucoup plus à surveiller dans cette industrie que dans une autre, en fait.
Voilà, on va essayer de comprendre comment, d'abord, qu'est-ce qui limite, quel est le degré de réglementation, comment sont surveillées les publicités aussi des sociétés privées de paris sportifs qui opèrent sous licence, il faut le préciser, dans un pays comme la France. Et bien sûr, vous nous appelez si vous êtes parieur ou pas, déçu ou au contraire tout à fait enthousiaste des paris sportifs. Vous pouvez nous appeler au 33 7 60 4, 45, 51, 41.
Hey, this the East Side Johnny Big Redemption like. Know what I'm talking about? Hold up.
Whoa, 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 whoa.
Get out the way, get out the way.
De voisins, on est en direct aujourd'hui sur RFI. On parle des paris sportifs et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. C'est une industrie du jeu du hasard qui a explosé ces dernières années à la faveur de la digitalisation, évidemment, de ces paris sportifs à partir d'un smartphone. C'est très facile de jouer. Sur le continent africain, évidemment, énormément de petits kiosques aussi qui sont partout sur le continent et qui permettent de jouer très facilement. On est maintenant à Nairobi, au Kenya, qui est un pays qui abrite l'une des industries du jeu les plus développées du continent. Bonjour Charlotte Simonard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante sur place. Combien pèse cette industrie au Kenya aujourd'hui du pari sportif ?
Eh bien, le marché pèserait 40 millions de dollars en 2020, selon les dernières estimations de la plateforme de sondage mobile Géopoll. C'est la troisième industrie du jeu la plus développée du continent, après le Nigeria et l'Afrique du Sud, et le secteur devrait encore s'accroître dans les prochaines années. Il faut savoir que l'industrie du jeu au Kenya existe depuis 1966, et elle est ainsi la plus ancienne d'Afrique.
Ouais, et la croissance du secteur a explosé ces 10 dernières années, en gros.
Oui, totalement. Le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 100 grâce au succès des plateformes de paris sportifs comme Sportpesa et Betin, qui sont les deux leaders du secteur ici. Une croissance que l'on doit également à l'essor de M-Pesa, vous savez, ce système de paiement mobile qui facilite finalement la participation et l'accès à ces jeux d'argent. Et aujourd'hui, le marché est principalement dominé par les paris sportifs, les jeux de casino et puis ensuite le poker. Tout cela se fait en ligne. Il faut dire que le Kenya enregistre un taux de pénétration d'Internet de 40%, qui est élevé à l'échelle du continent. Et c'est l'un des pays les plus avancés en matière de technologie en Afrique. Ici, par exemple, on estime que 9 adultes sur 10 ont un téléphone portable, dont 30% sont des smartphones. C'est une aubaine pour l'industrie du jeu.
Et est-ce qu'au Kenya, Charlotte Simonard, l'industrie du jeu cible également principalement les jeunes générations? Est-ce que ça pose un problème social?
Tout à fait, on s'inquiète ici de cet impact social de l'industrie du jeu. Les jeunes sont de plus en plus accros aux paris en ligne et ça s'explique par un taux de chômage important chez les moins de 35 ans. Ils se mettent à rêver de devenir riches facilement. Il est possible de parier aussi de très petites sommes, quelques shillings seulement, ce qui permet aux jeunes et aux plus pauvres aussi de mettre le pied dans l'engrenage. Je vous propose d'écouter à ce propos deux témoignages, celui de Kennedy d'abord, la trentaine, et puis vous entendrez Kilunja qui lui a plus de 60 ans.
Je parie 50 shillings par jour sur Sportpesa, soit environ 50 centimes d'euros. Mais en ce moment, c'est difficile de gagner. J'ai des maux de tête et je suis stressé car quand on ne gagne pas, on parie encore plus et on perd plus. Parfois, certains gagnent 12 000, 20 000 shillings. Ça me donne de l'espoir. La pandémie de Covid nous a beaucoup affectés, alors on espère encore plus gagner pour changer notre vie. C'est pourquoi on risque toujours plus. Un de mes amis avait parié 60 000 shillings, mais il a tout perdu. Il a fini par se pendre.
La nouvelle génération est devenue complètement folle avec ces jeux d'argent. Certains vont jusqu'à voler pour pouvoir parier. Ils sont accros. Avant, ça n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de travail. Donc, ils parient tous les jours dans l'espoir de gagner quelque chose, mais ils perdent tellement d'argent.
Et malgré cela, le gouvernement vient d'alléger, Charlotte Simonard, les taxes sur le secteur au Kenya.
Oui, le président Kenyatta a approuvé il y a quelques semaines la baisse de la taxe sur le chiffre d'affaires du secteur. Elle passe de 20 à 7,5%. Le président a clairement cédé là à la pression des acteurs du secteur. Alors même si officiellement il s'agit d'augmenter les gains des joueurs, ça promet en tout cas de relancer encore davantage l'engouement des Kenyans pour les jeux d'argent.
Oui, ça fait moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Merci beaucoup Charlotte Simonard d'avoir été en direct.
Merci à vous.
Avec nous de Nairobi. Latifa Olkouir, vous êtes journaliste et directrice du Bondi Blog, un média en ligne en France. Et Isabelle Falque-Pierrotin, vous êtes présidente de l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui est l'autorité qui régule les paris sportifs et les jeux de hasard en France. Grosso modo, aujourd'hui, est-ce qu'il faut davantage responsabiliser les gens, les parieurs, les jeunes en l'occurrence, ou davantage réglementer, Latifa Olkouir?
Je dirais un peu des deux. Je crois que sur on faudrait revenir un peu en arrière parce que la loi qui a ouvert donc à la concurrence pour les opérateurs de jeux en ligne au début des années 2010, on sait que c'est une loi qui a été votée à la va-vite juste avant le mondial, qu'il y a tout le volet sanitaire qui a manqué d'attention sur le durcissement et en tout cas l'encadrement par exemple de la publicité. C'est quelque chose dont on parle, on peut retrouver des ministres qui en parlent dans les années déjà 2010, 2012, 2013, etc.
Juste une parenthèse quand même, cette libéralisation du marché du pari en ligne, elle s'est faite aussi sous la pression de l'Europe, hein.
Oui, évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait de manière extrêmement précipitée parce que le Mondial 2010 arrivait et donc il fallait absolument légiférer à ce moment-là. Donc il y a de toute façon une carence de ce point de vue-là, en tout cas sur l'encadrement de la publicité. Il y a évidemment déjà des textes qui existent où on dit que mais ces textes devraient avoir plus de force. Ce dont je parlais tout à l'heure, comme ne pas cibler les mineurs, faire en sorte qu'ils ne fassent pas la promotion de la réussite sociale. Aujourd'hui, quand on voit des spots de certains opérateurs, tous les codes, on va dire, de la promotion de cette réussite sociale y sont.
Oui. On peut prendre un exemple. Il y a une certaine pub où on monte dans un ascenseur.
ascenseur.
C'est le dernier spot de Winamax, mais celui qui était précédent était aussi assez dangereux, mais effectivement qui s'intitule Tout pour la daronne. Une mère de famille prend un ascenseur dans un immeuble un peu délabré, et cet ascenseur lui fait exploser le plafond de l'immeuble, et elle se retrouve en première classe dans un avion. Donc voilà, entre l'idée de l'ascenseur, utiliser l'image de la mère de famille, qui est souvent celle pour laquelle on retrouve dans beaucoup de chansons de rap ou de textes, etc., celle pour laquelle en fait on est prêt à tout faire pour
offrir un confort matériel. Parier, vous allez vous enrichir.
Alors que la vérité, c'est que souvent, souvent la daronne est la seule qui reste quand son fils est victime d'addiction, et la seule qui reste avec lui et qui restera avec lui malgré ses addictions et le fait qu'il lui aura fait perdre son argent. Donc c'est vraiment tout ça. Enfin, des textes existent déjà, mais ils devraient s'appliquer avec plus de force. Et puis c'est une discussion qui existe aussi bien avant la France, dans des pays européens comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie.
Reprenons cet exemple de publicité. Ce que je ne comprends pas très bien, Isabelle Falpirotin, c'est qu'il y a un décret du 4 novembre 2020 qui reprécise bien qu'on interdit toute communication commerciale qui suggère que jouer contribue à la réussite sociale, qui valorise le jeu ou encore toute mise en scène de personnalité ou de personnages appartenant à l'univers des mineurs, toute publicité orientée vers les enfants et les adolescents. Quand on voit une pub comme ça, clairement, on vous dit que jouer contribue à la réussite sociale.
La difficulté, c'est que si on applique littéralement le texte, quasiment toutes les publicités pour les jeux d'argent peuvent être interdites. Donc la question est de savoir quels sont les critères objectifs à partir desquels on peut effectivement sanctionner une publicité. Ce texte, par ailleurs, étant nouveau, puisqu'il date de novembre 2020. C'est-à-dire, je vous le rappelle, quand même 7 mois après l'installation simplement de l'autorité. Ce qui s'est passé avec cette campagne, c'est que l'ARPP, qui est donc l'organe de régulation, d'autorégulation de la publicité, a considéré que cette campagne ne posait pas de problème. Nous avons reçu effectivement pour avis la campagne de Winamax et je dirais, c'était il y a quelques mois, c'était avant le déferlement médiatique de l'euro. C'est vrai que nous avons considéré qu'il n'y avait pas, je dirais, de raison manifeste d'interdire la publicité. Encore une fois, parce que si on applique littéralement le texte, je dirais, beaucoup de publicités seraient
sanctionnées. Finalement, vous êtes doté d'une réglementation qui était inapplicable.
Attendez. Donc ça, c'était en novembre 2020. On est maintenant en 21. Je dirais, le marché progresse. La sensibilité aussi de l'opinion publique se modifie. Il y a eu autour de l'euro, je dirais, un tollé, quelque part, qui s'est exprimé et qui a considéré que, de façon générale, il y avait une pression publicitaire qui était trop forte. Et ceci nous conduit à travailler maintenant avec l'ARPP pour sortir des guidelines, des lignes directrices permettant de segmenter, de fixer des critères illustrant, si vous voulez, l'application de ce décret de novembre 2020. Ça peut vous paraître, tout ça peut vous paraître, et je sens à votre regard, que ça vous paraît bien compliqué. Une règle de droit, elle doit être explicite et elle peut également être contestée devant le juge.
Oui, on est bien d'accord qu'il faut attention à l'arbitraire, bien sûr.
Il faut faire attention à l'arbitraire. Ça n'est pas parce que c'est bien ou c'est mal, ou parce que c'est l'opinion d'un tel ou d'une telle. Il faut que juridiquement, qu'il y ait un corpus de référence auxquels les opérateurs peuvent justement se référer pour ensuite développer leur stratégie promotionnelle. Donc ça ne se fait pas juste en claquant des doigts, en disant « ça va pas ». Donc ça, c'est ce travail qu'on a initié avec la RPP. Il sera terminé à la fin de l'année et il s'inscrit dans le cadre justement de cette grande consultation publique dont on dira peut-être un mot sur justement la publicité des opérateurs de jeux d'argent. Ouais.
Latif Alkouir, ça pose vraiment un problème parce qu'il y a effectivement des parieurs qui disent « moi c'est juste un petit loisir comme ça et pourquoi me retirer cette liberté-là ? » Qu'est-ce qu'il faudrait pour à la fois protéger les gens contre ce qui devrait rester juste un loisir comme un autre, ne mettant pas en danger la santé financière des gens?
C'est vrai que nous, quand on fait ce travail en février 2021, qu'on publie cet article et qu'ensuite, finalement, c'est qu'on en refait un autre juste avant l'euro qui est énormément repris. Du coup, dans l'opinion, on a, grâce à notre travail, beaucoup d'articles qui sont faits là-dessus. L'idée, c'est pas de se dire faut supprimer les jeux d'argent ou les paris sportifs, évidemment, de manière générale. Nous, ce qui nous a, en tant que journalistes, interpellés, c'est le déséquilibre effarant, en fait, qu'il y avait entre ces opérateurs dont on voyait les chiffres augmenter chaque année, et autour de nous, une réalité sociale qui était de plus en plus difficile à supporter. Le constat, il est celui-là. Après, effectivement, il y a des carences. C'est quelque chose qui arrivait tellement vite que, par exemple, sur le terrain, il est extrêmement difficile encore aujourd'hui de trouver, en France ou de manière générale, des opérateurs de terrain, des associations qui viennent sensibiliser contre l'addiction, etc., parce que ça nécessite aussi des compétences particulières. Donc, c'est aussi un manque qu'il y a, clairement, d'associations, d'acteurs de terrain qui seraient là pour encadrer, je ne sais pas, dans des associations sportives, etc., et sensibiliser les plus jeunes à ces questions-là.
Vous avez l'impression que les pouvoirs publics, globalement, montrent peu d'empressement à appliquer, à réguler et à sensibiliser. Ça serait
oui, j'ai l'impression, ce qui est très
dommage. Une tâche trop immense par rapport à la réalité du boom des paris sportifs.
Oui, en tout cas, le boom est réel et là, il y a un problème. C'est-à-dire que ce décret dont on parle, il pourrait acquérir une valeur législative et ainsi avoir plus de force et s'appliquer avec plus de force. Ça pourrait être une piste qui est...
Il pourrait y avoir tout simplement des limitations des mises aussi.
En fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui nécessitent du temps, c'est-à-dire interdire aussi la publicité à certains créneaux horaires, comme on le voit autre part, ou interdire...
Au Royaume-Uni, non, notamment, oui.
Et il y a beaucoup de choses qui ont été déjà débattues dans d'autres pays européens. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment deux aspects. C'est-à-dire, pour que le jeu conserve cette dimension récréative, qu'on ait tout ce travail, qu'il y ait beaucoup plus de prévention. On voit des fois des influenceurs le faire davantage depuis ce qui s'est passé cet été. Ils font de la pub. Après, ils disent attention si vous êtes mineur, etc., etc. Ça devrait être une obligation. Et on comprend que ce n'est pas que pour les paris sportifs, mais tout ce champ des réseaux sociaux, de la publicité qui inonde les écrans des plus jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, manque de réglementation. Et c'est vraiment assez dramatique, mais on sait aussi que la machine législative, réglementaire, est lente à s'adapter.
Comment se situe la France ? On dit beaucoup que la France a une réglementation qui est extrêmement stricte par rapport à d'autres pays, mais dans les faits, dans les actions de sensibilisation, dans l'application de la réglementation, comment se situe la France par rapport à d'autres
pays ? Alors, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que la détermination de l'ANJ pour lutter contre les éventuelles dérives des paris sportifs est totale. Et qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre de réglementations qu'il faut mieux appliquer. Vous avez mentionné la limitation des dépôts et des mises. C'est effectivement déjà une manière de protéger le joueur. Il y en a une autre qui est nouvelle, qui date de novembre 2019. C'est l'obligation pour les opérateurs d'identifier les joueurs problématiques ou excessifs. Ça, c'est un enjeu majeur pour le régulateur, parce que si on se met d'accord sur la définition d'un joueur à risque ou d'un joueur pathologique, et qu'on oblige les opérateurs à avoir une forme de réponse graduée.
Vous pensez sincèrement que les opérateurs vont aller contacter les joueurs qui jouent trop et qui perdent beaucoup trop, évidemment.
Mais c'est pas que
Monsieur Intel, vous avez perdu des milliers d'euros cette année, on va vous exclure. Faites attention.
Il y a une obligation légale. Cette obligation légale, elle doit être respectée. Nous avons aujourd'hui, nous, la possibilité de voir s'il y a une concordance entre un joueur que nous identifions à risque dans notre base de données et le même joueur, l'historique de jeu qu'il a avec un opérateur. Si cet opérateur continue à lui proposer des free bets, des bonus, etc., il est en situation de manquement. Et ça, il est clair que l'autorité de régulation fera respecter cette réglementation. Donc si vous voulez, on peut imaginer de nouveaux moyens de lutte. Et dans le cadre de la consultation publique, ce que vient de mentionner Latifa sur l'encadrement de la publicité à la télévision, sur le fait d'agir sur l'âge des influenceurs, parce qu'on n'a rien dit aussi sur les influenceurs, mais il faut voir que le joueur a maintenant face à lui, en fait, un écosystème qui ne comprend pas bien, parce qu'il y a les opérateurs, il y a les streamers, il y a les influenceurs, il y a les tipsters, et tous ces gens-là relaient de la publicité ou de la mobilisation autour des paris sportifs.
Et donc, un message simple et unique à comprendre, vous allez devenir quelqu'un de super et de riche en pariant.
Mais le pari a toujours été, il y a un de vos auditeurs qui parlait de magie. De tout temps, de toute façon, le pari a joué sur cette magie. Vous allez changer de vie, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Donc ça, vous ne le changerez pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est que le joueur ait suffisamment d'outils à sa disposition et que les opérateurs se responsabilisent pour que toute cette activité reste récréative et qu'on n'ait pas les drames dont parlait votre auditeur il y a un instant, de suicide, de surendettement, dont personne ne veut.
On va donner la parole à des auditeurs pour terminer cette discussion. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Issiaka, patiente au standard depuis un moment. Il est à Bouaké en Côte d'Ivoire. Bonjour Issiaka.
Bonjour.
Désolée de vous avoir fait attendre. Issiaka, on vous donne la parole. Qu'est-ce que vous constatez chez vous en Côte d'Ivoire?
Chez nous, en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, c'est vraiment très compliqué. Tous les jeunes jouent au Paris sportif.
Oui.
Tout récemment, j'ai même un ami qui vient de perdre sur le match Bruges PSG. Il a perdu 400 000 francs. Il avait parié que Paris Saint-Germain allait gagner. Et Paris Saint-Germain a fait un match nul.
Est-ce qu'il y a également des mineurs qui jouent, des enfants?
Effectivement, il y a des mineurs qui jouent. Puisque aujourd'hui, avec les applications, là, tous les jeunes, les mineurs ont l'application sur leur téléphone. Et puis, c'est très facile avec les mobiles moyens de se recharger et puis jouer à la maison.
Bien que les jeux d'argent soient interdits aux mineurs, normalement, non, en Côte d'Ivoire?
C'est interdit. Il y a même des coins, dans les coins de rue où les Lunacy à ses sites, des coins de jeu. J'ai même vu des policiers. Ouais.
Restez en ligne avec nous, Issiaka. Une petite parenthèse. En France, il y a des mineurs qui jouent à des jeux à des paris sportifs.
Oui, évidemment, bien que ce soit interdit, que ce soit pour le coup quelque chose qui est assez clair, où tout le monde sait que les mineurs ne peuvent pas, eux-mêmes évidemment le savent, mais oui, c'est évident.
Il n'y a aucun moyen technologique de les protéger de ça?
Mais disons que normalement, vous ne pouvez pas ouvrir un compte joueur si vous êtes mineur, hein, puisque ça, c'est interdit. Mais il y a mille moyens de contourner cette interdiction.
De prendre un numéro de carte
vous
bancaire.
Vous prenez un numéro de carte bancaire qui n'est pas la vôtre. Vous jouez à partir d'un compte d'un ami ou d'un parent. Donc on sait que des mineurs jouent. Et par ailleurs, et ça c'est plus insidieux, on sait aussi que dans la communication, dans la publicité que certains opérateurs utilisent, en fait, ils ciblent aussi des influenceurs ou des univers
très jeunes.
Très jeunes. Oui. Et donc là, nous, on commence à regarder justement cette affaire pour dire aux opérateurs, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas utiliser tel réseau de diffusion de votre publicité parce qu'on sait que c'est un réseau de diffusion mineur.
Issiaka, chez vous, en Côte d'Ivoire, les jeunes jouent beaucoup au paris sportif parce qu'il y a aussi toute cette communication sur les réseaux sociaux notamment.
Oui, il y a communication, la plupart des jeunes sont dans les groupes de Paris sur WhatsApp, et puis même les téléphonies mobiles, ils s'y mettent.
Ah bon?
Même tout récemment, oui, MTN avec Momo, qui passe tout le temps la publicité, les spots publicitaires à la télé, donc...
C'est ça. Les sociétés de téléphonie mobile proposent elles-mêmes aussi des systèmes de paris sportifs parce qu'elles se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent à gagner avec ça.
Effectivement, c'est ça.
Issiaka, vous, je sais que vous êtes bénévole dans une ONG pour la santé qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce que vous, en tant que personne mobilisée pour la jeunesse en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous aimeriez que votre pays fasse pour protéger les jeunes des paris sportifs?
Ce que nous demandons, c'est à l'État de s'impliquer, parce qu'on constate qu'il n'y a pas de contrôle, tout le monde fait ce qu'il veut, l'État ne sanctionne pas, ne contrôle pas. On demande à l'État de réguler ce secteur-là, sinon ça risque d'être un véritable problème.
Mais il y a une réglementation, qui a été discutée, non, en 2020? Il y a un sujet sur la réglementation qui a été discuté en 2020. Vous avez le sentiment qu'ensuite, ça n'a pas donné lieu à des textes précis et surtout à des sanctions, comme vous le disiez?
Oui, il n'y a pas sur le terrain, nous, on est dans la communauté, hein, on ne voit pas de sanctions ni de rien. Tout chez M. Vous venez de m'apprendre tout de suite qu'il y a une réclamation, moi, mais je ne suis pas au courant qu'il y a des lois qui sont votées pour sanctionner ça.
Merci, Issiaka, en tout cas, d'avoir été en ligne avec nous. On devait avoir Aziz au téléphone avec nous, qui est un agent de loterie à Conakry et qui vend aussi, évidemment, également des paris sportifs. Il nous dit qu'il gagne très bien sa vie, qu'il a pu se marier grâce à ça. Il touche 4 à 5 % de ce qu'il vend par semaine. On aurait bien aimé lui demander si lui-même, il parie à des paris sportifs. C'est comme le buraliste qui pourrait s'abstenir de fumer, par exemple. Il nous dit qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant et qu'il a des joueurs qui jouent beaucoup trop. Donc, en tout cas, il a du recul sur ce qui se passe. Latifa Oulkouir, journaliste et directrice du Bondi Blog. Vous dirigez un média qui est engagé auprès des jeunes de la diversité, dans des quartiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez des choses en particulier au pouvoir public en France ?
Des choses en particulier, je ne sais pas. Juste, on est conscient, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est quelque chose qui a eu un boom assez rapide dans les conditions que l'on connaît. Comme je disais tout à l'heure, en fait, le règlement dont on parlait, l'appliquer avec plus de force, lui donner une valeur législative, donc qui serait plus importante. Et après, ce n'est pas que vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est aussi sur le terrain, au niveau des acteurs, vraiment prendre en compte cette problématique-là, davantage sensibiliser, faire ce travail de prévention. Et évidemment, bon, bah, là, pour tout le monde, mettre davantage en avant ce travail de prévention-là, parce qu'on se rend compte, même au sein de famille, etc., que comme c'est lié au sport et au foot, bah, des fois, ça peut nous arriver d'avoir des pratique à la maison, de parier, de dire ah tiens, toi tu penses que qui va gagner, etc. Et donc on a cette normalité-là presque, en oubliant, parce que quand on aime le sport, en oubliant que ça peut être dangereux. Donc vraiment,
il y a quand même des jeunes qui disent qu'ils sont plus angoissés maintenant quand ils regardent un match de foot, bien parce sûr. Qu'ils ont parié et que du coup ils profitent même pas du plaisir de la compétition sportive, ce qui est quand même très
l'adrénaline
triste.
Du pari a remplacé celle du sport et du supporter, on va dire, basique, qui ne parie pas. Et ça, c'est vraiment une tristesse quand on aime le sport. Mais vraiment avoir des textes qui soient plus fort et qui a une valeur plus forte, et ensuite avoir au niveau de la société dans son entièreté vraiment une vigilance par rapport à ça et favoriser la prévention au maximum pour que le jeu reste récréatif.
Sans parler des matchs truqués, des dérives finalement dans le monde du sport du fait des paris sportifs. Ça rapporte combien à l'État finalement les paris sportifs grâce aux taxes ?
Alors, ça rapporte pas mal. ça rapporte pas mal, beaucoup moins que la loterie. Donc aujourd'hui, les paris sportifs représentent 10% du marché des jeux d'argent. Donc c'est encore, je dirais, un secteur qui est en pleine croissance, mais qui ne représente pas encore l'essentiel du secteur. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est rémunérateur pour l'État, c'est évident. Mais je voudrais rebondir sur le terme « équilibre ». Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre plus de prévention. Plus de prévention, c'est pas l'activité de paris sportif en particulier, c'est pas quelque chose comme une autre. Donc il faut faire passer ce message-là, essayer de le faire passer d'une façon innovante et attractive et pas simplement...
Donc en gros, on va dépenser de l'argent à faire de la prévention pendant que des sociétés s'enrichissent faire des paris sportifs. Est-ce que c'est logique ?
Quand vous avez une pratique qui concerne un Français sur deux, vous pouvez pas juste dire « c'est mal ». Donc, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi aussi ces Français jouent et faire en sorte que lorsqu'ils jouent, ils jouent encore de façon récréative. Donc, pour qu'ils jouent de façon récréative, il faut d'abord qu'ils soient conscients des risques qu'ils ont eux-mêmes et deux, que la législation soit effectivement appliquée. Et c'est clairement la mission...
Et surtout qu'ils ne perdent pas trop d'argent. Donc
Pardon ?
Et surtout qu'ils ne perdent pas trop d'argent. C'est quand même ça le fond du problème.
Le pari... On perd de l'argent lorsqu'on parie.
Non, mais ça,
si on devait gagner de l'argent au pari, au jeu de hasard, ça ne serait plus un jeu de hasard. Fondamentalement, les gens perdent de l'argent.
Bon, ben voilà, écoutez, il y avait un auditeur qui nous disait au tout début de cette émission, j'espère que vous ne ferez pas l'apologie des paris sportifs. Je crois qu'en tout cas, on est éclairé sur une réalité, vous l'avez donnée en chiffres. Quand on parie régulièrement, à la fin, le solde est négatif. Tous les cas de figure, quasiment. On l'a bien expliqué.
Et ne pas oublier que pour les paris sportifs, ça reste un jeu de hasard, en fait. Et vraiment intégrer ça.
Sûr.
On a une illusion de l'expertise, mais ça reste que du hasard. Et on peut être le meilleur pronostiqueur du monde. On peut... Et on a grande chance de perdre au paris sportif.
Malgré une bonne expertise du sport.
Tout, ouais.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime bien regarder les matchs de foot. C'est
exactement.
Qu'on n'est jamais sûr du résultat. Sinon, ça ne serait pas drôle. Merci en tout cas à toutes les deux, Latifa Oulkouir, journaliste et directrice du Bondi Blog. On retrouve le Bondi Blog, bien sûr, en ligne. Merci à vous, Isabelle Falk-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux. C'est l'ANJ. Demain, 7 milliards de voisins parlera éducation à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. Comment faire équipe avec les parents pour faire réussir tous les élèves. Et bien sûr, vous pourrez prendre la parole en direct chez 7 milliards de voisins.
RFI, la sélection.